C'est toujours assez excitant quand une idée apparaît et propose une nouvelle façon de regarder ce qui nous arrive. La première fois que j'ai entendu parler de techno-féodalisme, c'était en 2020 sous la plume d'un économiste français qui s'appelle Cédric Durand. Il venait de publier un livre sobrement intitulé « Techno-féodalisme, critique de l'économie numérique ». Alors, ce qui m'a tout de suite plu, c'est d'abord la tentative de qualifier l'économie à l'ère du numérique, de la théoriser. J'ai trouvé ça audacieux et, pour tout dire, assez salutaire. Et puis, j'ai bien aimé le terme forgé par Cédric Durand, techno-féodalisme. L'antinomie entre techno d'un côté, qui renvoie à l'ultra-modernité, voire au futur, hein, avec ses milliardaires en hoodies et ses sièges sociaux tout vitrés, et de l'autre côté, féodalisme, qui fait référence à l'Europe du Moyen-Âge avec ses châteaux forts, ses seigneurs, ses vassaux et ses serfs. Si je suis complètement honnête, ce qui m'a plu dans cette idée de techno-féodalisme, c'est un petit côté, les visiteurs débarquent dans la Silicon Valley.
Messire ! Un sarrasin ! Messire !
Et il a raconté histoire sur histoire sur la vie à Silicon Valley, sur les fêtes à Stanford ou à LA et sur ses amis devenus millionnaires. Mais surtout sur le fait que Mark devait à tout prix, il devait à tout prix aller en Californie.
Nuit ! Jour ! Nuit !
Et là, il a enchaîné sur The Facebook.
Ça suffit ! Venez à table avec nous !
Ça le gestionnerait ! Hein, mon jacouille ? Tu ne veux pas venir à ce table avec nous ?
Oh, non, Seigneur Hubert !
$1 million, c'est pas cool, vous savez ce qu'il coûte ?
$1 milliard.
Mais Cédric Durand, c'est un économiste sérieux. Et son propos était étayé. Il montrait comment ces deux termes de technologie et de féodalisme n'étaient pas antinomiques, mais allaient très bien ensemble. Il montrait comment le système économique en train de se mettre en place autour des géants du numérique ressemblait étrangement à celui qui avait dominé en Europe jusqu'à la Révolution française avec ses mécanismes de rente, de travail non rémunéré, de privatisation des espaces publics, etc., etc. Alors, je regrette de ne pas en avoir discuté avec Cédric à ce moment-là, mais son livre est sorti en 2020. Hein. On était encore dans la pandémie, on pensait sans doute à autre chose. Mais voilà, ce qui est beau avec les idées, c'est que quand elles sont bonnes, elles circulent. Et justement, voici que le techno-féodalisme vient de ressurgir sous la plume d'un autre économiste, grec cette fois-ci, Yanis Varoufakis. Yanis Varoufakis, on le connaît surtout parce qu'il était le flamboyant ministre des Finances du gouvernement d'Alexis Tsipras pendant la terrible crise qui a opposé la Grèce à l'Union européenne au début des années 2010. On se souvient des négociations hyper dures que menaient les Grecs, avec l'Allemagne notamment, et on se souvient de Yanis Varoufakis, grand type au crâne presque rasé, au visage anguleux, au regard assez dur, qui tentait d'opposer une vision économique de gauche à une Union européenne qui voulait faire payer à la population grecque les errements de ses gouvernements successifs.
Bienvenue à tous. C'est un mot, un simple mot lâché par le ministre des Finances grec, Yanis Varoufakis. Mais sa portée est exceptionnelle. Non, dit-il, non, nous ne paierons pas.
Aujourd'hui, Varoufakis est redevenu économiste, l'économiste qu'il a toujours été, et le voici donc qui publie un livre, Les nouveaux serfs de l'économie, où il reprend à son compte la notion de techno-féodalisme forgée par Cédric Durand. Il la reprend et il la cuisine à sa sauce avec ses obsessions, comme la critique de l'Union européenne, et c'est pas inintéressant.
Xavier Delaporte.
Alors avec mon collègue du Nouvel Obs, Pascal Richer, qui lui touche sa bille en économie, on est allé interviewer Yanis Varoufakis. Il est arrivé encore plus chic que pendant sa période ministérielle, à la fois sympathique et autoritaire, on peut le dire. Et on est reparti du début pour bien comprendre de quoi il en retournait.
Le code a changé.
Varoufakis a une théorie audacieuse. Pour lui, le capitalisme est mort. Rien que ça. Et il est mort parce que ce qui est son socle, à savoir le capital, a muté en ce que Varoufakis appelle le capital cloud. Pour lui, tout commence là. Donc, première question, c'est quoi le capital cloud ?
Cloud capital is,
le capital cloud est la première forme de capital qui n'est pas productive. Une canne à pêche, un tracteur ou un robot industriel sont des produits qui deviennent des moyens de production, des choses qui ne sont pas fabriquées pour être consommées, mais pour produire autre chose. Un poisson dans le cas de la canne à pêche, du maïs dans le cas du tracteur, des voitures dans le cas du robot industriel. Mais ça, ce qu'il y a dans mon smartphone, ce capital algorithmique que j'appelle capital cloud parce qu'il est connecté au cloud, c'est la machinerie. Des câbles de fibre optique, des serveurs, des tours, d'énormes centres de données. Cette forme de capital que j'appelle capital cloud ne produit rien. Tout ce qu'il fait, c'est modifier notre comportement. Nous faire écouter de la musique qu'on n'aurait pas écoutée, nous faire lire des livres qu'on n'aurait pas lus, et bien sûr, nous faire acheter des choses qui nous donnent envie d'acheter. Je ne parle pas d'un point de vue moral ici, parce que la plupart des recommandations faites par Amazon sont bonnes. Presque jamais un livre recommandé par Amazon ne m'a déçu. Même chose pour les musiques recommandées par Spotify. Mais je parle du fait que cela guide mes comportements. Ces produits sont des moyens de modification des comportements. Et ils ont de ce fait l'énorme pouvoir de créer ce que j'appelle des fiefs cloud. Amazon, Uber, Airbnb, Twitter, maintenant X, ce sont des fiefs, car imaginez-les comme des enclosures digitales entourées de murs dans lesquelles nous sommes à la fois des acheteurs, des vendeurs, des écrivains, des orateurs, des lecteurs, etc. Et leur propriétaire touche une rente cloud. C'est ce qui en fait un système féodal. On ne revient pas au féodalisme, mais on va vers un nouveau féodalisme, le techno-féodalisme.
Bon, il faut que j'admette, au début, ça m'a fait un peu marrer cette manie de mettre cloud partout. Capital cloud, fief cloud, rente cloud. En plus, bon, je suis pas certain que cloud soit le terme le plus adapté. Mais bon, il a l'avantage d'être évocateur, hein, quelque chose qui est à la fois matériel, bien sûr, mais qui est aussi léger, ou en tout cas qu'on essaye de nous faire passer pour plus léger, plus propre que les usines, les cheminées et les machines bruyantes qui caractérisaient l'époque antérieure. Donc, OK pour mettre cloud partout. Surtout que ce que dit Varoufakis, c'est intéressant. Le capital d'une entreprise des big tech, ce ne sont plus des machines qui produisent des biens, mais ce sont des algorithmes qui modifient les comportements. Bon, il y a des machines, bien sûr, dans l'informatique, mais ce n'est pas ce qui fait la valeur des entreprises de la big tech. Ce qui fait leur valeur, ce sont les programmes et les algorithmes. Et pour Varoufakis, eh ben, c'est cette nouvelle forme de capital qui permet le retour du féodalisme. Parce que se constituent des fiefs, les grandes plateformes, hein, dont nous sommes les nouveaux serfs, au sens où nous y produisons de la valeur sans recevoir aucune rémunération pour ça. Bon, pourquoi pas. Mais à ce stade de la discussion, j'ai encore un peu de mal à voir pour quelle raison ce système se distingue radicalement du capitalisme.
Parce que pour moi, le capitalisme est un système de production des biens, de la richesse et de la marchandise, et de distribution de ces biens et marchandises qui repose sur deux piliers. L'un est le profit, et l'autre, le marché. Il y a toujours eu des marchés. Il y avait des marchés en Égypte ancienne, il y en avait en Grèce antique. L'Europe féodale avait des marchés, mais ils étaient minuscules, ils étaient marginaux. Si vous regardez la France au XVIIe siècle, sur tout ce qui était produit, seulement 1% était écoulé dans les marchés. Tout le reste l'était à l'intérieur même des domaines féodaux. Les paysans produisaient des choses dont le seigneur prenait sa part. Il n'y avait pas de marché. La terre n'était ni achetée ni vendue, il n'y avait pas de travail salarié, pas de marché de travail. Vous ne pouviez pas dire « je démissionne » et ne percevez donc pas de salaire. Donc, c'est sous le capitalisme que les marchés sont devenus dominants, avec la création du marché du travail, le marché de l'immobilier, le marché monétaire. Soudain, tout ce que nous faisions était canalisé par le marché. Donc le marché est une des jambes du capitalisme. La seconde, c'est le profit. Sous le féodalisme et les modes de production qui l'ont précédé, c'était la rente qui prévalait. Vous collectiez la production des autres parce que vous étiez le seigneur. C'est de la rente, ce n'est pas du profit. Le profit, c'est ce qu'on obtient sur un marché comme récompense de son activité entrepreneuriale. Eh bien, aujourd'hui, le marché et le profit ont été remplacés à cause du capital cloud.
Bon, je ne vais pas contester sa définition du capitalisme et de ses deux piliers, le profit et le marché. En revanche, je ne vois pas très bien comment Varoufakis peut dire que le numérique a fait disparaître les marchés. Parce que moi, quand je regarde Amazon, par exemple, je ne vois qu'un vaste marché. D'ailleurs, il me semble que c'est comme ça que Jeff Bezos lui-même a toujours considéré Amazon. C'est drôle d'ailleurs de réécouter ce qu'il disait, c'était en 99, à la télé américaine. Quand il avait encore quelques cheveux, le Bezos est déjà sa voix doucereuse, la faussement sympathique.
I believe that if you can focus obsessively enough on customer experience, selection, ease of use, low prices, more information to make purchase decisions with, if you can give customers all that plus great customer service, then I think you have a good chance. And that's what we're trying to do.
Bon, bah quand j'entends ça et que je constate ce qu'est devenu Amazon aujourd'hui, eh ben j'ai du mal à y voir autre chose qu'un marché tout à fait classique. Comment Varoufakis peut-il dire que les marchés ont disparu alors qu'on ne voit que ça sur Internet ?
Ce fief cloud ressemble à un marché. C'est vrai que sur Amazon, vous voyez des milliers d'acheteurs et de vendeurs, mais ce n'est pas un marché, c'est une plateforme d'échange, soit l'exact opposé d'un marché, parce qu'un marché est décentralisé. Si vous allez sur un marché, vous voyez un vendeur ici, un vendeur là, même s'il y a un monopole. Prenez une galerie marchande qui n'a qu'un seul propriétaire. On s'y balade tous les deux, on discute, on voit un vase et je dis « Il est pas mal, t'en dis quoi ?» Et vous répondez « Non, 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 c'est une mauvaise copie ou je ne sais quoi. » On a une conversation, on est dans un espace décentralisé. Mais quand vous êtes sur Amazon, il n'y a pas de conversation. Il y a un algorithme qui ne vous permet de parler qu'à ceux à qui il veut que vous parliez. Il vous met en contact avec le vendeur dans l'intention de maximiser la probabilité que vous payiez le prix le plus haut, de sorte que Jeff Bezos, le propriétaire du Capital Cloud, collecte ses 40% de rente cloud. Et ça, les amis, ce n'est pas un marché. C'est ce que j'appelle un fief cloud. Et de plus en plus, les fiefs cloud conquièrent le monde. Prenez la bourse de New York, enlevez les fiefs cloud, il n'y a plus rien.
Pas faux. Si on regarde quelles sont les premières capitalisations boursières à New York, eh ben on trouve en tête Apple, Microsoft, Nvidia, qui est une boîte qui fait de l'IA, Alphabet, c'est-à-dire Google, Meta, c'est-à-dire Facebook, Amazon, etc. C'est-à-dire que les premières entreprises non-tech ne viennent qu'ensuite avec des capitalisations qui sont très nettement inférieures. Donc, d'accord, les fiefs cloud ont conquis le monde. Et d'accord, ils ne sont pas des marchés, mais des plateformes d'échange ou autre chose. On peut donc s'accorder avec Varoufakis, les marchés, premier pilier du capitalisme, ont disparu. Si on suit son raisonnement, le second pilier du capitalisme, le profit, a aussi disparu. C'est la rente qui a fait son retour. Alors, pour l'expliquer, Varoufakis, il donne un exemple, l'iPhone. L'objet lui-même, iPhone, il dégage des profits quand il se vend. Mais des concurrents multiples peuvent apparaître. Pour en vendre plus, il faut investir, construire de nouvelles usines, acheter du matériel, ouvrir des magasins, faire de la publicité, c'est du capitalisme tout à fait classique. Mais le coup de génie, c'est la création de l'App Store. C'est-à-dire que l'iPhone devient le cœur matériel d'un écosystème, une plateforme qui met à disposition de son usager plein d'applications fabriquées par des acteurs tiers qui versent un pourcentage à Apple. Et ça, c'est de la rente. C'est de la rente prélevée par Apple sans que ça lui coûte presque rien. Comme au seigneur qui perçoit une rente pour la mise à disposition d'une terre qui va être exploitée par ses vassaux. Donc, moins de profit et plus de rente. Mais ils sont si énormes que ça, les montants de la rente cloud ?
Selon mes estimations, entre 30 et 35% de la plus-value produite par les travailleurs du monde entier sont siphonnés. Ça représente un montant gigantesque. Et cet argent, à la différence du profit, ne revient pas dans l'économie. Si vous êtes un fabricant de meubles, par exemple, et que vous faites du profit, vous sortez et vous le dépensez. Ou alors vous engagez un autre ouvrier, un autre designer. Jeff Bezos ne fait pas ça. Il gagne tellement d'argent qu'il le met de côté. Et cet argent entre dans ce que j'appelle la finance cloud.
Ah tiens, un nouveau truc cloud. La finance cloud. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh ben, c'est ce que devient l'argent dégagé par la rente cloud. Un argent qui n'est pas dépensé, ou marginalement, parce que, de toute façon, ces gens ne peuvent pas dépenser tout leur argent. Ils en ont trop. C'est un argent qui n'est pas non plus réinvesti. Alors, bien sûr, les boîtes de la Big Tech investissent pour innover, pour créer des data centers, etc. Mais il y a une grande différence avec le capitalisme d'antan. C'est que un nouveau client ne leur coûte rien. Ou presque. Quelqu'un qui achetait une bagnole. Eh ben, ça coûtait à Ford, en matériel, en temps de travail, etc. Mais un nouveau client de l'App Store, eh ben, ça coûte presque rien à Apple. Tout ça fait que la rente, c'est rentable, si je puis dire. Et donc, beaucoup d'argent est siphonné, comme dit Varoufakis. En fait, il va aux actionnaires d'Amazon, Apple, Google, etc. Donc, à leurs créateurs, bien sûr, mais aussi et surtout à de grands gestionnaires d'actifs, américains pour la plupart, qui ont comme premier souci de garantir les meilleurs retours sur investissement à leurs clients. Bon, évidemment, je trace tout ça à grands traits. Hein. En vrai, c'est beaucoup plus compliqué, mais que ce soit plus compliqué, ça ne veut pas dire non plus que c'est plus subtil et plus vertueux. Et même si on entre un peu dans le détail, on se met à regretter, ce qui est un comble, hein, le vieux capitalisme à la papa. Mais justement, ce vieux capitalisme à la papa, est-ce qu'il a vraiment disparu? Parce que c'est bien beau ce que raconte Yanis Varoufakis, mais quand on regarde autour de soi, bah, on voit encore plein d'objets, plein de biens, plein de marchandises et plein d'entreprises capitalistes tout à fait traditionnelles et très prospères.
Oui, c'est ce qu'on voit. Mais en 1800, où que vous regardiez, vous voyez du féodalisme, mais le féodalisme était mort. On ne le savait pas, mais il était mort. Il n'y a jamais de ligne claire qui sépare les différents modèles socio-économiques de production. Vous allez aujourd'hui dans la campagne française, vous retrouvez plein de fonctionnements qui relèvent de la logique féodale. La socio-économie, c'est un peu comme notre corps. À l'intérieur de notre ADN, il y a des traces d'anciens serpents, et elles sont très importantes pour nous, mais nous ne sommes pas des serpents.
Alors là, j'ai dû vérifier. Autant je savais qu'on avait dans notre ADN des traces de l'ADN de l'homme de Néandertal qui a disparu il y a environ 40 000 ans, ce qui est déjà assez fascinant. Mais je ne savais pas qu'on partageait un patrimoine génétique avec les serpents. Eh ben, c'est vrai. Et notamment, je l'ai découvert dans les cellules du placenta. Alors ça, c'est passionnant. Mais bon, on s'éloigne un peu de notre sujet. Donc, il n'est pas absurde qu'on ait encore l'impression de voir triompher partout le capitalisme. Les systèmes socio-économiques ne meurent pas en un jour. La thèse de Varoufakis n'est pas fragilisée, accordons-lui que nous sommes bien en train de changer de régime. Alors, lui nomme le régime qui est en train d'advenir le techno-féodalisme. C'est donc qu'il accorde une place centrale à la technologie dans ce bouleversement. Il nous en a dit quelques mots, mais c'est pas assez à mon goût. Il faut qu'il nous explique quel rôle joue la technologie dans cette histoire.
La dialectique. Vous vous souvenez de la vieille notion hegélienne de dialectique ? C'est la beauté et la délicieuse ironie de la chose. Nous avons besoin de beaucoup de technologie pour revenir à la dialectique. Parce que, ok, prenons une agence de publicité traditionnelle et j'utilise ici l'exemple de Don Draper dans Mad Men, parce que j'aime bien cette série.
La technologie, ça attire toujours, bien sûr.
There's the rare occasion when the public can be engaged on a level beyond flash.
Mais en de rares occasions, on peut toucher les gens à un autre niveau, plus profond.
They have a sentimental bond with the product.
Quand ils ont un lien sentimental avec votre produit.
My first job, I was in-house at a fur company.
Je me souviens de mon premier boulot. J'étais l'assistant du concepteur-rédacteur chez un fourreur.
This old pro copywriter, Greek named Teddy.
Un vieux briscard, un grec qui s'appelait Teddy.
Teddy told me the most important idea.
Et Teddy m'a appris que le mot le plus important
is new.
C'était nouveau.
Creates an itch.
Cette idée-là démange les gens.
He also talked about a deeper bond with the product.
Teddy m'a aussi parlé de cet autre lien plus profond avec le produit.
Nostalgia.
La nostalgie.
It's delicate.
C'est subtil.
But potent.
Mais très puissant.
Donc vous avez le grand publicitaire qui arrive avec une idée pour vous faire acheter une barre de chocolat Hershey's. C'est le pire chocolat du monde, d'accord ? Mais il trouve une bonne manière de passer par l'émotion pour faire une publicité qui vous en donne l'envie. Ce n'est pas de la dialectique, c'est unilatéral. Le grand homme arrive avec une publicité qui passe à la télévision ou une affiche dans la rue, il entre dans votre cerveau, dans votre cœur, vous achetez une barre Hershey's, fin de l'histoire.
C'est marrant parce que, ne connaissant pas Hershey's ni les pubs pour Hershey's, eh ben j'en ai cherché une et je suis tombé sur celle-ci.
Hi Dad.
Pour sûr.
So if you look at the assets.
Ah, okay.
Where are we up? We're up.
Sorry. Sure. Let's do that then.
Évidemment, elle n'a pas été créée par le héros de Mad Men, cette pub, et de toute façon, elle date de 2016, et je crois que Don Draper était déjà mort. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est un tire-larme, cette pub. L'histoire d'un petit garçon dont le père passe sa vie à bosser en visio chez lui, et qui va faire un poster en taille réelle de son papa pour le mettre face à l'écran, et que son papa et lui puissent s'enfiler des chocolats dans la cuisine pendant que la visio continue dans le bureau. Mais une pub comme ça, pour Varoufakis, eh ben, c'est le vieux monde. Et lui, eh ben, pour nous expliquer qu'on est entré dans le techno-féodalisme, il nous montre son téléphone.
With this.
Ça?
With Alexa.
Mon smartphone avec Alexa, ça commence tout gentiment.
You say, Alexa,
vous dites « Alexa, rappelle-moi d'acheter du lait » ou
«
Achète un billet pour l'opéra ». Et elle le fait parce qu'elle est votre esclave.
You could have done it yourself.
Certes, vous auriez pu le faire vous-même, right? Mais ce n'est pas grave.
But in that way,
mais de cette manière, en étant votre esclave,
Alexa
qui est connectée au cloud, à ce réseau de Capital Cloud qui, dans ce cas précis, appartient à Jeff Bezos, est entraînée par vous, à vous connaître. La prochaine fois que vous chercherez un lieu où sortir le soir, elle aura une suggestion à vous faire, parce qu'elle vous connaît. Si vous suivez la suggestion en disant « Ah, mais c'est une bonne idée !» Soudain, vous l'avez entraînée à vous entraîner, à l'entraîner, à vous connaître. C'est une dialectique infinie. La dialectique hegélienne, celle des Grecs anciens. Une sorte de capital dialectique a remplacé l'unilatéral Don Draper. C'est la manière dont la technologie a changé la nature du capital. Ce n'est pas tellement la technologie en elle-même. La technologie m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est que nous avons créé une forme de capital qui est dialectique. Je ne dis pas qu'il est intelligent. Il est bête, terriblement bête. Il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Mais son fonctionnement est dialectique. Et par conséquent, celui à qui appartient cette partie du capital jouit d'un immense pouvoir sur nous. Et pas seulement sur vous et moi qui l'utilisons. Mais pensez que l'algorithme qui vous fait acheter un vélo sur Amazon est le même que celui qui gère les entrepôts d'Amazon, où des prolétaires sont dirigés, surveillés, et même licenciés si la machine pense, et en général, elle n'a pas tort, que la probabilité est forte qu'ils forment ou rejoignent un syndicat. Et c'est le même algorithme qui s'assure que 40% du prix que j'ai payé pour le vélo est enlevé du profit du capitaliste qui a fabriqué le vélo pour aller dans la poche de Jeff Bezos. Ça, c'est une gigantesque transformation.
Bon, là, je trouve qu'il va un peu vite en besogne, le Varoufakis, quand il dit que c'est le même algorithme qui fait tout ça. Ça frise l'algorithmophobie de dire des trucs comme ça, hein, comme s'il y avait un seul et unique programme qui organisait tout. En vrai, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, à la limite, peu importe, parce qu'on voit bien ce qu'il veut dire. Hein. L'informatique a changé la nature du capital des entreprises. Ce sont désormais des programmes. Là, il nous parle d'Amazon. Mais dans son bouquin, Varoufakis, il détaille plein d'autres modèles, et celui des boîtes d'intelligence artificielle notamment. Et c'est assez convaincant, hein, cette histoire de dialectique, parce que c'est une manière de dire qu'on est toujours partie prenante de la fabrication de ce capital, qui se constitue en grande partie, on le sait, avec nos données, celles qu'on met volontairement dans les réseaux, et puis celles qu'on nous arrache aussi sans qu'on soit vraiment au courant. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que Varoufakis glisse au passage dans sa démonstration. Ce nouveau genre de capital dialectique donne un immense pouvoir à celui qu'il possède. Mais si je comprends bien, ce pouvoir, il n'est pas seulement économique, il est aussi politique.
Comme toujours. C'était déjà le cas avec Henry Ford. Ça a toujours été le cas avec tout capitaliste de l'histoire du capitalisme. Le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir discursif, le pouvoir moral, le pouvoir religieux sont entremêlés et l'ont toujours été. Rien de nouveau là-dedans. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le pouvoir est beaucoup plus concentré. À cause de sa pénétration dans votre sphère privée. Naguère, vous terminiez le boulot, vous rentriez chez vous. Si vous ne vouliez pas regarder la télévision, vous ne regardiez pas la télévision. Si vous aviez envie, vous le faisiez, mangiez peut-être une barre de mauvais chocolat, ok. Mais aujourd'hui, parce qu'elles sont tellement utiles, je ne suis pas contre les technologies, hein. J'utilise mon smartphone sans arrêt. J'utilise Alexa, j'utilise tout. Il faut que j'étudie l'ennemi, bien sûr. J'utilise TikTok, je suis complètement amoureux de TikTok d'ailleurs. TikTok, c'est génial.
Alors là, cette confession, elle est assez marrante. Hein, parce qu'elle entre en contradiction avec l'image que donne Varoufakis, l'économiste de gauche, radical, rigoureux. Alors forcément, on a envie qu'il raconte son histoire d'amour avec TikTok.
Au début, j'ai détesté, parce que ça me montrait des choses qui me révoltaient, me donnaient la nausée. Mais en 2 semaines, TikTok a commencé à me montrer des choses que j'appréciais vraiment. Comme par exemple des cours de physique, de la bonne musique. Enfin, celles que j'aime, comme des versions, des morceaux de Pink Floyd que je ne connaissais pas.
Évidemment, je suis allé chercher sur TikTok des versions live de Pink Floyd et je suis tombé sur celle-ci. C'est pas trop mon genre, mais je comprends le trip. J'imagine assez bien, d'ailleurs, Varoufakis écouter ça à fond, sur la terrasse de son grand appartement qui surplombe Athènes. Alors ça, c'est mon collègue Pascal Richer qui m'a raconté ça, parce qu'il est allé interviewer Varoufakis chez lui à Athènes en 2017. Donc, je vois bien Varoufakis sur sa terrasse, là, dans le soleil couchant, fumant un bon spliff. Alors ça, c'est pas Pascal qui m'a raconté, c'est moi qui imagine. Et ce kiff-là, si je comprends bien, l'économiste de gauche le doit à TikTok. Eh ben, bravo. Et qu'est-ce qu'il doit d'autre à TikTok ?
De bons discours sur la politique, sur Gaza. Je ne peux plus vivre sans. Donc, parce que je ne déteste pas cette machine, je ne suis pas contre elle. Mais la question est, à qui appartient le capital cloud ? Mais ça a toujours été le problème avec le capitalisme, n'est-ce pas ? Parce que nous n'étions pas contre la machine à vapeur, nous n'étions pas contre le télégraphe, nous n'étions pas contre le chemin de fer, nous étions contre un système de production, de distribution et d'échange où très peu de gens détenaient un capital qui leur donnait un énorme pouvoir sur les autres. Et ça n'a pas changé.
En effet, ça n'a pas changé et c'est bien de le rappeler. Comme c'est important de rappeler qu'il n'y a pas de fatalité pour la gauche à être contre les technologies. Et que même, on peut être de gauche et aimer la technologie. D'ailleurs, ça me rappelle un moment de la discussion que j'avais eue avec la grande historienne des sciences et féministe Donna Haraway. Haraway, c'est une figure incontestable de la gauche mondiale. Elle est de tous les combats depuis 50 ans. Et elle est critique de la techno depuis le milieu des années 80 et son manifeste Cyborg. Elle est critique, mais pas seulement critique. Elle dit aussi qu'il ne faut pas renoncer à la technologie, que c'est très important la technologie. Et quand je lui avais demandé pourquoi c'était important, elle avait fait une réponse magnifique.
Pour plein de raisons. D'abord, il y a le plaisir physique, émotionnel et intellectuel de ces modes de connaissance et de ces compétences. C'est important de voir leur beauté. Je pense au livre de Bruno Latour sur Aramis. Il raconte comment l'amour du train a manqué, qu'on ne l'a pas assez aimé ce train. Donc, il y a d'abord le fait que se développe dans les sciences et les technologies toute la richesse des capacités humaines.
Là, Donna Haraway, elle fait référence au livre que le sociologue Bruno Latour a consacré à Aramis. Un projet de métro automatique pour le sud de Paris qui avait été imaginé dans les années 70 et qui a capoté, c'est la théorie de Latour, par manque d'amour de la technique. Donc voilà, comme Haraway, on peut être de gauche et clamer haut et fort qu'il y a plein de raisons d'aimer la technique. Le problème pour la gauche, c'est pas la technique, c'est qui détient le capital. Et si cette question est si centrale pour la gauche, c'est parce que, Varoufakis le rappelait tout à l'heure, le capital donne un énorme pouvoir politique. Mais alors justement, quelle forme de pouvoir politique ça donne aujourd'hui ? Parce que le féodalisme avait la royauté comme système de pouvoir, le capitalisme il s'est accommodé de la social-démocratie, d'ailleurs pour Varoufakis il n'y a jamais eu vraiment de démocratie, mais ça c'est une autre question. Mais alors qu'en est-il du techno-féodalisme ? Quel système politique produit le techno-féodalisme ?
Il n'en produit pas un différent, il rend juste le système existant plus instable et plus brutal. Et la raison est la suivante. Les seigneurs du techno-féodalisme, ou claudalistes, comme je les appelle, s'en foutent du système politique. Amazon gagne 50 milliards d'euros en Europe et ne paye aucun impôt. Donc pourquoi ils se soucieraient du système ? Ils se foutent de quel gouvernement est en place, ici ou à Bruxelles. Ils n'en ont rien à faire à partir du moment où on ne touche pas à eux. Mais ils sont à l'origine de deux effets indirects du techno-féodalisme qui empoisonnent nos démocraties. Leur première faute, c'est la manière dont ils extraient de l'économie une grande quantité d'énergie et d'argent, qu'ils placent aux îles Caïmans ou ailleurs. On ne tire aucun profit des 50 milliards d'euros d'Amazon. L'argent dégagé par les big tech ne revient jamais. Ce qui signifie que la demande globale dans nos pays, les États-Unis compris, s'effondre. Ce qui crée de l'instabilité parce que cela signifie que les États connaissent de gros déficits. Le mécontentement augmente, la xénophobie et le racisme surgissent, la Banque centrale doit imprimer plus d'argent pour remplacer la demande globale. Ça provoque une inflation, cela crée beaucoup de bruit politique, on le voit très bien en France aujourd'hui, et aussi en Allemagne. Le capitalisme a toujours été un macro-système instable, mais aujourd'hui l'instabilité est 10 fois supérieure. Ça impacte la politique, le fait que la social-démocratie soit aujourd'hui impossible. Parce qu'imaginez que je sois président ou que vous soyez président à la place de Macron, vous faites quoi? Naguère, Mitterrand pouvait faire asseoir les industriels et les syndicats à une même table et avoir une conversation. Vous faites quoi aujourd'hui? Vous mettez Jeff Bezos à table avec vous ou moi? C'est impossible. Quelle discussion on pourrait avoir? Bezos ne viendrait même pas. Et vous ne savez même pas que c'est Bezos qui affecte votre vie quotidienne par le siphonnement de la rente cloud. C'est une indirecte, mais gigantesque distorsion de notre vie politique due au techno-féodalisme, qui n'est pas intentionnel. La seconde, c'est la conversation. Parce qu'aujourd'hui, la discussion que nous avons ensemble est médiée par le capital cloud. Les cloudalistes se moquent de ce que nous disons sur Twitter ou sur Instagram. Ils s'en moquent vraiment. Ce qui les intéresse, c'est leur rente cloud. Et les algorithmes produisent plus de rente si on est en colère. Donc, ils empoisonnent la conversation. Encore une fois, ce n'est pas intentionnel, ce n'est pas un complot. Quand j'entends des gens dire qu'Elon Musk essaie de détruire la démocratie, je me dis, mon Dieu, on n'arrive plus à penser.
Ouais, enfin, quand même, ils veulent bien quelque chose, les cloudalistes, non? Musk, par exemple, eh ben, il est en train de faire la campagne de Donald Trump activement. Début octobre, là, il est monté sur la tribune même. D'ailleurs, ça a donné lieu à une scène mémorable.
His name is Elon Musk. He saved free speech. He created so many different great things. Where is he?
Bill. Vote, vote, vote. Fight, fight, fight. Vote, vote, vote.
Thank you.
Et à côté de Musk, là, qui bondissait partout comme un gamin, Trump avait l'air presque sage. Bref, moi quand je vois ça, j'ai du mal à penser que l'accroissement de sa rente soit la seule motivation de Musk.
Si,
bien sûr. Après, ils ont chacun leur idée fixe. Le MMA pour Zuckerberg, Elon Musk veut aller sur Mars. Ils ont leurs obsessions parce qu'ils peuvent se le permettre.
Ok, bon. On va pas continuer à énumérer les effets directs ou indirects du techno-féodalisme, parce que sinon, on va vraiment déprimer. Alors, passons à ce qu'on peut faire. Mais alors là, il y a peut-être une nouvelle raison de déprimer. Parce que dans son bouquin, et d'ailleurs ça a bien fait rigoler mon collègue Pascal Richer, Varoufakis explique que la seule force politique à pouvoir lutter contre les cloudalistes, les seigneurs du techno-féodalisme, eh ben, c'est le Parti communiste chinois. Et ça, c'est quand même un peu troublant.
Vous en doutez? Il y a deux groupes de cloudalistes. Des Américains et des Chinois, ok? Au passage, l'Europe n'en a aucun. Une des raisons pour lesquelles l'Europe ne sert à rien, c'est un continent stupide, tout le monde se moque de ce qu'on dit, sauf nous, est que le capital cloud est concentré aux États-Unis et en Chine. Néanmoins, le Parti communiste chinois n'est pas cloudaliste. Il y a des cloudalistes en son sein, mais le Parti communiste chinois est beaucoup plus intéressant que ça. Si vous regardez le comité central, c'est comme un champ de bataille. Vous trouverez des représentants de Jack Ma, des gens qui possèdent Alibaba, Tencent, des cloudalistes. Mais ils sont une petite minorité. La majorité sont des capitalistes traditionnels qui n'aiment pas les cloudalistes. Ils sont propriétaires d'industries traditionnelles comme la métallurgie, l'aluminium, l'automobile. Et ce sont eux qui, avec les représentants des travailleurs, ont serré la vis aux cloudalistes. Regardez Jack Ma, ils s'en sont débarrassés. Ils leur ont envoyé un avertissement clair. Si vous allez au-delà d'une certaine rente, vous êtes hors jeu. Donc attention, on ne fait pas ça en Occident. Donc je maintiens ce que j'ai écrit. C'est sûr que si je vivais en Chine, je serais en prison. Je ne défends pas le Parti communiste chinois, mais du point de vue de la lutte contre le techno-féodalisme, s'il y a une force politique dans le monde qui tient les féodalistes en laisse, c'est le Parti communiste chinois. Bon, bien sûr, il tient tout le monde en laisse, mais...
Je sais pas bien comment interpréter le petit rire de Varoufakis, là. Bon, c'est vrai que la mise au pas de Jack Ma, c'était un truc. Hein. Jack Ma, star de la tech, en Chine, où il avait créé un empire autour d'Alibaba, et puis aussi hors de Chine, où il fascinait un peu, jusqu'au jour où...
On se demande où est passé Jack Ma, le milliardaire chinois, fondateur d'Alibaba. Il a disparu, n'a plus été vu publiquement depuis octobre dernier, peu après un discours critique à l'égard de Pékin. Quel est le point de départ de cette disparition ?
En fait, il critique le système financier chinois, dont il est un des acteurs aussi. Le système financier chinois, dit-il, s'apparente en fait à un système archaïque qui est basé simplement sur le prêt sur gage. C'est l'expression qu'il utilise, qui bien sûr a une très mauvaise connotation en Chine. Et ce qu'il souligne dans cet archaïsme, c'est le fait que ce système est complètement nationalisé, qu'il ne s'est pas modernisé, qu'il ne s'est pas adapté à des techniques modernes dont il est naturellement le promoteur.
Ça, c'était un journal de TV5 Monde en 2021. Alors depuis, on ne l'a pas beaucoup revu, hein, Jack Ma. Et même selon le Financial Times, il vivrait aujourd'hui au Japon depuis 2022, mais j'en sais pas plus. Ça, donc, c'est une méthode pour mettre au pas les claudalistes chinois. Mais le PCC, il en a une autre, beaucoup plus subtile, et que pour le coup, j'ignorais complètement.
Ils ont forcé leurs claudalistes à coopérer avec les banques traditionnelles et ont créé ainsi ce que j'appelle une finance cloud homogène. En Chine, il y a une application qui s'appelle WeChat, qui peut faire plein de choses, mais une chose en particulier qu'aucune app européenne ou américaine ne peut faire. Elle vous permet de faire des paiements gratuits partout, peu importe dans quelle banque vous avez votre compte. Pourquoi ça n'existe pas ici en Europe ? Pourquoi n'y a-t-il pas d'euro numérique comme il y a un yuan numérique en Chine ? Christine Lagarde le veut. La Fed aux États-Unis veut aussi un dollar numérique. Mais Wall Street ne les laissera jamais faire. Wall Street ne voudra jamais partager sa rente bancaire avec les claudalistes. Cela crée une séparation entre le capital cloud et la finance, qui sont unis en Chine. Et après la guerre en Ukraine, des centaines de milliards de dollars et d'euros ont été déplacés dans le système chinois par des Saoudiens, des Émiratis, des Indonésiens, qui ont vu comment avait été confisqué l'argent de la Banque centrale russe et se sont dit « Attendez une seconde, les Américains ont fait ça, c'est la première fois de l'histoire du capitalisme que ça a lieu à cette échelle. » Ils ont déplacé leurs fonds vers le capital cloud chinois et la finance chinoise. Et c'est pour cela que soudain, les États-Unis, d'abord sous Trump, puis sous Biden, ont découvert que la Chine était un problème.
Pour Varoufakis, elle est là, la vraie raison des tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine. Pour lui, c'est pas tant Taïwan, la mer de Chine, ou même la compétition industrielle qui justifie le durcissement des États-Unis envers la Chine. C'est le fait que depuis la guerre en Ukraine et les mesures historiques prises par les États-Unis à l'encontre de la Banque centrale russe, la Chine est devenue un recours pour ceux qui veulent qu'il n'arrive rien à leur argent, ce qui au passage est un assez beau paradoxe. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que Varoufakis voit là l'effet d'une décision technologique, fabriquer un yuan numérique. J'avoue que cette histoire m'avait complètement échappé. Alors, évidemment, comme si j'y en crois, ça n'arrivera pas en Europe ou aux États-Unis et qu'on ne dispose pas des mêmes moyens pour limiter la puissance des claudalistes, la question c'est, et nous alors ? Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Je vais vous faire une réponse très ennuyeuse, celle que la gauche marxiste fait depuis 150 ans. Parce que le capitalisme a beau avoir laissé la place au techno-féodalisme, c'est ce que je pense, le problème reste le même, c'est-à-dire la propriété privée du capital, en l'occurrence le capital cloud. Aussi longtemps que le capital cloud sera privatisé, nous serons condamnés en tant qu'espèce. Nous devons donc trouver des manières de transformer le capital cloud en bien commun, en quelque chose qui appartient à la communauté. Et on peut commencer petit. Imaginez que la ville de Paris crée son propre Uber, son propre Airbnb, où l'on discuterait démocratiquement de ce qu'il y a dans l'algorithme. Vous avez de fantastiques programmeurs dans votre pays. Vous pourriez facilement créer un beau morceau de Capital Cloud qui appartiendrait à tous, dont le code informatique aurait une seule intention, maximiser le bien-être social, pas la rente cloud d'un propriétaire privé. Ça n'est bien sûr qu'un tout petit exemple, mais ça a toujours été le problème de la gauche. Marx était très fort pour critiquer ou analyser le capitalisme, mais quand on lui demandait « Ok, on fait quoi ?» Pas de réponse, il a choisi de ne pas répondre. Souvenez-vous que dans Le Capital, Marx n'a jamais décrit le communisme. Donc aujourd'hui, j'ai 65 ans, j'essaye de comprendre et d'utiliser les technologies. Mais je ne suis pas un natif du Capital Cloud. Je pense que ce sont les natifs du Capital Cloud qui doivent trouver des moyens de le transformer en un bien commun. Pas en un bien privé qui est utilisé pour détruire la sphère publique, notre capacité à communiquer et à débattre.
Intéressant hein, que Varoufakis en appelle à cette vieille idée des communs. Parce que, historiquement, on considère précisément que c'est le féodalisme qui, pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'au XVIIe siècle, a fait disparaître progressivement les communs. C'est-à-dire que la terre cultivable, les forêts, les rivières, peu à peu, n'ont plus été considérés comme des biens communs, des biens appartenant à tous, mais comme des propriétés privées. Et c'est l'instauration de ce qu'on a appelé les enclosures, et quand elles sont entrées dans la loi à la fin du XVIIe siècle en Angleterre, eh ben, c'est ce que Marx a considéré comme le début du capitalisme. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette vieille pratique, avec toute la théorie qui va avec, hein, des communs, eh ben, elle a été réactivée dans les années 60 par des gens comme la politologue Elinor Ostrom, qui disait eh ben, y a quelque chose entre le bien public qui est géré par l'État et le bien privé qui est géré et qui appartient à des personnes. Et ce qu'il y a entre les deux, ce sont les biens communs. Les biens communs qui font l'objet d'une administration différente. Un exemple des arguments que pouvait avancer Elinor Ostrom, c'était juste quelques temps avant sa mort, en 2012.
Je ne dis pas que la centralisation ou la privatisation ne peuvent pas marcher. Je dis juste qu'elles ne sont pas les seules solutions pour qu'un système fonctionne. Il y a beaucoup d'exemples d'individus qui se regroupent et créent un régime de propriété commune, car ils comprennent quelque chose que ceux qui regardent cela de l'extérieur ne comprennent pas. Et beaucoup de ces régimes de propriété commune fonctionnent aussi très bien.
Et cette idée de bien commun, là, elle a été souvent utilisée pour qualifier ce qui aurait été le bon régime de propriété et de gouvernance de l'Internet. Et d'ailleurs, Varoufakis, il la reprend à son compte dans l'histoire qu'il fait d'Internet. Il dit, ben, l'histoire d'Internet, l'histoire du web, c'est l'histoire d'un bien commun, inventé dans le cas du web par les universitaires, hein, qui est rapidement privatisé pour aboutir à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc en fait, avec cette idée de commun numérique, Varoufakis, il est tout à fait cohérent, hein. On pourrait même dire qu'en appelant au commun, et en ne cessant de se référer à Marx, eh ben, Varoufakis promeut une sorte de technocommunisme. Alors pour ma part, hein, si le technocommunisme ne produit pas de Gulag Cloud, je suis assez OK avec ça. Mais j'ai deux doutes. Le premier, c'est que les exemples donnés par Varoufakis, eh ben, ils sont assez faiblards. Il le reconnaît lui-même, hein. Un Uber ou un Airbnb parisien. Bon, pourquoi pas? Mais on fait quoi pour contrer Amazon, Google? Et puis avec l'IA qui pose encore d'autres problèmes, on va faire quoi? Alors, je veux bien que Varoufakis se prenne pour Marx et ne fasse pas l'effort de décrire plus précisément ce que pourrait être le technocommunisme. Enfin, du coup, on reste un peu sur sa faim. Et puis, il y a un deuxième doute. Varoufakis, il fait confiance aux jeunes. Mais est-ce qu'il faut vraiment faire confiance aux jeunes? Du fait juste qu'ils soient nés dans le Capital Cloud, pour reprendre les termes de Varoufakis. Hein. Bon, dit comme ça, c'est pas très sympa, c'est un peu abrupt, j'en ai bien conscience. Mais j'ai récemment été témoin d'une scène qui m'a frappé. J'étais à Barcelone et j'assistais à une rencontre entre Zadie Smith et deux jeunes lycéens barcelonais. Alors, Zadie Smith, c'est une immense écrivaine anglaise pour laquelle j'ai une admiration tout aussi immense. Hein. Elle parlait donc à deux jeunes catalans de son dernier livre, L'Imposture, qui est une sorte de magnifique roman victorien qui se déroule dans l'Angleterre des années 1850, avec en fond l'histoire d'un type qui tente de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Bon. De manière assez maligne, Zadie Smith, elle a commencé par expliquer aux lycéens que si les impostures étaient courantes à cette époque, à la moitié du 19e siècle, beaucoup de gens se faisaient passer pour d'autres, pour par exemple capter des héritages, etc. Eh bien, c'était parce que la société de l'époque, elle était très inégalitaire, très bloquée, et que, en fait, ce genre de délit était bien souvent la meilleure manière de casser les barrières de classe. Et puis, elle a ajouté, Zadie Smith, c'est la raison pour laquelle les impostures sont aussi légion à notre époque, là, dans les années 2020. Parce que les inégalités ont à nouveau cru que la société s'est à nouveau rigidifiée. Et là, elle leur a parlé des réseaux sociaux en leur expliquant que ben, ils étaient un moyen de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, ce qui est à la fois compréhensible et dangereux. Et ça, ça a énormément frappé les jeunes. Alors, ils se sont mis à lui poser plein de questions sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., en la transformant en une sorte de pitié du numérique. Et de fait, elle a dit des choses très justes. Elle a par exemple fait un parallèle entre la société esclavagiste qui était l'Angleterre de cette époque-là et aujourd'hui. Elle a expliqué aux lycéens que les propriétaires des grandes plateformes, bah, c'était des sortes d'esclavagistes doux, quoi, qui prospéraient sur le travail produit par les internautes, mais sans jamais les rémunérer. Et ça, ça résonnait complètement avec Varoufakis. Alors, j'ai sorti mon agra pour l'enregistrer, mais alors le temps que je dénoue les fils de mon micro et que j'allume ma machine, et bah, Zadie Smith, elle parlait plus du tout d'Internet. Hein.
Just for my own, like, knowledge, so I could think about it. And I went into that book with an open mind. I really wanted to know. I was willing for any explanation to be the answer. And the answer that I found when I read...
Bon, bah c'est pas encore cette fois-ci que je vais avoir le prix Albert Londres, hein, mais bon, les jeunes, eux, ils ont écouté Zadie Smith avec passion, alors qu'elle me semblait dire des trucs qu'ils auraient dû savoir. Hein. Et quand elle s'est arrêtée de parler, bah, ils étaient aux anges. Et donc là, je me suis dit, bah ok, ça a l'air de résonner en eux, ce que dit Zadie Smith, mais est-ce que Varoufakis a raison d'avoir tant confiance en ces jeunes? Est-ce qu'ils sont pas, pour reprendre un concept marxiste, hein, encore plus aliénés que nous à ce techno-féodalisme auquel il faudrait pourtant s'attaquer?
Oui, donc c'est dur. Mais ça a toujours été dur. Le travail de la gauche a toujours été très difficile. Il est encore plus difficile aujourd'hui, mais on est à blâmer aussi. Un siècle d'échecs.
Sur les échecs de la gauche, Varoufakis, il est assez lucide. Selon lui, elle ne s'est pas remise des dérives puis de la chute du communisme soviétique, qui a entraîné avec lui tous les idéaux de gauche, même ceux qui étaient très critiques vis-à-vis de l'Union soviétique et de ses épigones. Et pour lui, l'idée même des communs, que pourtant il défend, elle a été entachée quoi, par les horreurs du communisme soviétique. Et ça, ça explique le siècle d'échecs dont il parle. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on pousse un peu, eh ben, Varoufakis, il donne une autre raison plus étonnante aux faillites de la gauche.
On n'est pas des gens très bien, nous, les gens de gauche. On l'a prouvé. Et je le dis en tant qu'homme de gauche. Je l'ai vu en 2015 quand j'étais au gouvernement. La facilité avec laquelle on se dresse les uns contre les autres. La propension qu'on a à se considérer les uns les autres comme nos pires ennemis. La diabolisation des camarades. Tout cela ne nous rend pas très attirants pour toute une partie de la population. Mon père m'a alerté sur ce point alors qu'il était vieux. J'avais 15 ans, j'étais impliqué dans les mouvements de gauche, il était communiste et il m'a donné un seul conseil. Il n'était pas du genre à faire de grands discours. Une fois, il m'a pris à part et m'a donné ce conseil. Méfie-toi de tes camarades. Parce que quand il avait été mis en prison pour ses engagements communistes, c'est le parti communiste qui lui a fait le plus de mal. Donc, en un certain sens, les gens qui veulent changer le monde, pour toutes les raisons les plus vertueuses, finissent par devenir brutaux. Pensez aux chrétiens. Il n'y a rien de plus doux et sympathique que l'idéologie chrétienne. Aimez votre prochain, l'amour, 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 et regardez ce que les chrétiens ont fait les uns aux autres. C'est une énigme humaine. D'une part, nous devons changer le monde, de l'autre, nous devons faire attention à changer le monde sans devenir des monstres.
Ok, alors on peut être moins ambitieux peut-être. Et se dire que le but c'est pas forcément de changer le monde, hein, mais qu'on pourrait juste réguler un système défaillant. Et là, c'est mon camarade Pascal Richer qui pose la bonne question. Il rappelle à Varoufakis que, dans l'histoire, il y a eu des exemples de régulation du capitalisme qui ont fonctionné. Par exemple, les lois antitrust aux États-Unis qui ont ordonné le démantèlement de AT&T, l'entreprise toute puissante de télécommunications, ça c'était dans les années 70, hein. Ou encore, si on remonte la dissolution de Standard Oil, la aussi toute puissante société de raffinage et de distribution de pétrole qu'avait créé Rockefeller. Alors, pourquoi ne pas faire la même chose avec les fiefs cloud ?
Mais Standard Oil, techniquement, était tellement facile à démanteler. Des stations essence, des camions, des pétroliers, il y a juste à dire « Ok, c'est une entreprise nationale, on va la fragmenter en 50 entreprises, une par État ». Politiquement, c'était difficile. Il fallait affronter Rockefeller, mais techniquement, c'était facile. Aujourd'hui, avec Twitter, vous faites quoi ? Le problème avec Twitter, c'est qu'il doit être transnational, parce que quand je tweet, je veux que les gens me lisent en Israël, en Indonésie, donc on fait quoi ? On crée un Twitter local qui ne communique pas avec le Twitter d'à côté, ça ne marche pas. Par ailleurs, aucun régulateur ne peut réguler l'algorithme. C'est la tragédie de l'Europe. Vestager pense qu'elle peut réguler l'algorithme, mais elle ne peut pas réguler l'algorithme. Surtout maintenant, avec les algorithmes d'apprentissage automatique par renforcement qui sont au cœur de l'IA. Même les gens qui créent l'algorithme ne comprennent pas comment il fonctionne. Donc, comment les régulateurs peuvent-ils réguler une chose que même ses créateurs ne comprennent pas ? C'est pourquoi il faut se concentrer sur la propriété, pas sur la régulation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, en tant que progressiste, on n'a pas le droit d'oublier qu'être de gauche a toujours consisté à s'attaquer aux propriétaires des moyens de production, pas simplement à réguler et à redistribuer les revenus.
Ok, donc si je comprends bien, notre solution social-démocrate, elle est non seulement insuffisante, mais complètement irréaliste. En vrai, il faudrait peut-être rentrer dans le détail et faire un bilan des différentes mesures de régulation qui ont été instaurées, notamment dans l'Union européenne, en particulier le DSA et le DMA. Mais enfin bon, outre que ce serait un peu fastidieux, on voit bien qu'elles ne sont pas du tout à la hauteur des ambitions de Varoufakis. Donc, moi, quand je l'écoute, je me dis que la seule solution qui reste, c'est la révolution. Et là, Varoufakis, il se sert tranquillement un verre d'eau.
Ça l'a toujours été. Toujours. Mais quand on dit révolution, ça ne signifie pas forcément des barricades dans les rues de Paris et du sang qui gicle. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu toutes sortes de révolutions. La révolution industrielle, la révolution scientifique, la chute de la RDA. Espérons une très pacifique et très civilisée rupture radicale. Vous n'aimez pas révolution, disons rupture, un changement radical.
Alors, je vois pas du tout pourquoi Varoufakis pense qu'on n'aime pas le mot de révolution. Certes, ma famille a perdu quelques privilèges pas désagréables pendant la Révolution française, mais enfin, de là à penser que je suis un tenant de l'ancien régime, je suis limite vexé. Mais bon, on s'est quitté en bons termes avec Pascal Richer, on est ressorti de cette discussion tout à fait ragaillardi, on a marché pour rentrer au journal, on n'était pas très loin de la place de la Bastille, et on était prêt à s'attaquer au technoféodalisme, mais alors gentiment. Merci à Yanis Varoufakis, dont je recommande la lecture du livre « Les nouveaux serfs de l'économie » qui vient de paraître aux éditions « Des liens qui libèrent ». Et merci aussi à Pascal Richer, mon collègue du Nouvel Obs, qui m'a permis d'utiliser cet entretien que nous avons fait ensemble. À la prise de son, c'était Guillaume Roux, mixage Basile Bocquer et Baptiste Collion, réalisation Anaïs Reinhardt et Fanny Bohulon. C'était Le Code a changé, un podcast natif de France Inter.